Voilà, bonjour à tous. Alternante vous propose, durant une vingtaine d'épisodes, de revivre l'histoire de Nantes, cité des Ducs de Bretagne, en mettant en lumière quelques faits marquants. Je salue Étienne Gache, avec qui nous allons évoquer le passé nantais du début du Xe siècle au début du XVIe. Alors Étienne, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu nous expliquer ce dont nous allons parler pendant 20 épisodes ?
Oui, on va essayer de se retrouver un petit peu dans le Nantes du Moyen-Âge. Alors, il faut savoir que Nantes n'a pas été la cité des ducs avant le Xe siècle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous commençons au Xe siècle avec Alain Barbetorte, qui est le premier duc de Bretagne. Donc, on est en 937 à peu près. Il meurt en 952. Et on va aller jusqu'à la fin, à la fois à la fin du Moyen-Âge et puis, en fait, la dernière duchesse, puisque c'est Anne de Bretagne qui exercera les pouvoirs de duchesse de Bretagne. Elle sera reine de France. Elle meurt en 1514. Et quelques années plus tard, la Bretagne est rattachée à la France. C'est un peu compliqué puisqu'il y a normalement des successeurs qui étaient prévus, mais finalement, on peut vraiment considérer que la dernière duchesse, c'est Anne, 1514. On fermera à ce moment-là les émissions.
Alors, premier duc de Bretagne, Alain Barbetorte, je pense qu'on reviendra sur lui dans le prochain épisode. Ce serait bien de revenir sur ce qu'était Nantes et la Bretagne à cette époque.
Oui, à cette époque, lorsque Barbetorte arrive à Nantes, donc en gros lorsqu'il installe son pouvoir à la fin des années 930, il rentre dans une cité qui est une cité qui existait déjà, qui est une cité qui a des traces encore gallo-romaines. On en retrouve toujours d'ailleurs, les archéologues en retrouvent toujours. Et il y a toujours des marques de ce passé gallo-romain. Donc c'est cette ville qui est une petite ville si on regarde par rapport à aujourd'hui, mais qui a joué un rôle certain dans l'histoire à la fois à l'époque gallo-romaine, autant mérovingien, autant carolingien. C'est un port, c'est une ville de commerce, c'est également une enceinte fortifiée. Alors il faut pas s'imaginer une grande enceinte, hein, c'est pas très très grand. Je pense que vers le 4-5e siècle, d'après un certain nombre d'historiens, elle faisait environ, l'enceinte tenait la ville sur environ 16 hectares. Oui. 16 terrains de football, on va dire.
On peut considérer que le Nantes de l'époque se situait aux environs du château actuel.
Oui, bah essentiellement, beaucoup de l'histoire de Nantes se passe dans l'angle droit de l'arrivée de l'Erdre, à peu près sur la Loire. Hein, c'est-à-dire, en gros, si on s'y met aujourd'hui, là où les tramways se croisent lorsqu'ils arrivent des 50 otages et ceux qui viennent de la gare. Et donc, on est là dans une ville, je dirais au départ... On est dans une ville qui va rapidement devenir une ville chrétienne. Hein. Dès le 3e, 4e siècle, l'empreinte chrétienne se fait sentir, comme dans tout le monde gallo-romain. C'est l'époque également de Donatien et Rogatien, les fameux premiers martyrs qui auraient été exécutés en 288 ou 290. C'était des fils d'un magistrat. Et ensuite, lorsque la période gallo-romaine se termine, on rentre dans une autre période qui est la période mérovingienne, où là déjà les successeurs de Clovis commencent à regarder un petit peu vers l'Armorique. C'est également la période pendant laquelle les Bretons vont s'installer dans ce qui est aujourd'hui en gros le Finistère, on va dire, en débordant un petit peu sur les côtes d'Armor et sur le nord du Morbihan. Et donc c'est également la période qui va les voir vouloir s'étendre un petit peu. Et puis là, il va falloir que ceux qui dirigent le royaume, mérovingiens, puis les carolingiens, prennent des décisions. Et la grande décision qu'ils vont prendre, ça va être de créer ce qu'on appelle une marche, c'est-à-dire d'essayer de faire une zone qui contiendrait pratiquement les Bretons dans la partie la plus occidentale de l'Armorique. Et cette marche de Bretagne serait en gros la région de Vannes, la région de Rennes et la région de Nantes.
Ouais, revenons un peu sur ces Bretons de l'Ouest, hein, qui vont porter après un regard intéressé aussi vers la région nantaise. Qui sont-ils ?
Ces premiers Bretons... Ils arrivent en gros de Grande-Bretagne, quoi, hein. Notamment en partie du Pays de Galles. Ils s'installent par petites vagues. Longtemps, on a cru qu'il y avait une grande vague qui était arrivée. En fait, il semble bien qu'il a fallu à peu près 2 siècles pour que ces gens traversent la Manche, puisque finalement, c'était relativement assez facile à faire. Ils ont été eux-mêmes poussés par des envahisseurs qui arrivaient sur l'île de Grande-Bretagne. Ils se sont progressivement installés, ils ont parlé une langue celtique qui était différente de ce qui était là auparavant. Et ils se sont progressivement fondus, on va dire, dans la masse des gens, tout en gardant leur originalité, mais ils ont été rejoints par le christianisme qui a été un élément unificateur.
Alors tu évoquais tout à l'heure les marches, on y vient peut-être, parce que les Carolingiens sont inquiets justement de la présence et peut-être des velléités de ces peuples de l'Ouest.
Ah oui, tout à fait. Les Carolingiens se rendent bien compte que si ils veulent, enfin ça, on est maintenant à l'époque de Charlemagne, vers l'an 800 et ses successeurs, s'ils veulent vraiment dominer toute l'Europe de l'Ouest, un gros morceau qui correspondrait en gros à l'Allemagne, la France d'aujourd'hui, le nord de l'Italie, le Benelux, s'ils veulent que rien ne leur échappe, il faut qu'ils arrivent à peu près à mettre tout le monde à genoux. Donc de même qu'ils ont combattu les Frisons, les Bavarois, ben ils vont combattre effectivement, ils vont combattre les Bretons, et cela à plusieurs reprises. Et on va voir les successeurs de Charlemagne venir jusqu'en Bretagne à la tête de leur armée, oui.
Et donc il y a déjà des combats importants ou
Oui, il y a des combats importants. Avant les ducs de Bretagne, il y avait des rois, et il y a deux rois, notamment un... Morvan, qui laisse une trace assez importante dans l'histoire, qui va être tué à la demande des Carolingiens et très précisément du successeur de Charlemagne, hein, son fils Louis le Pieux, et d'une façon assez dramatique, puisqu'en fait pour qu'on soit vraiment sûr que c'est le roi qui a été tué, on va couper la tête au cadavre et on va l'amener jusqu'au représentant du roi pour qu'il reconnaisse la tête donc de Morvan. Quelques années plus tard, ce sera un autre, Iomar, qui sera tué également. Et il faut vraiment attendre Nominoé, c'est-à-dire en gros les années 830, pour que les relations soient pacifiées un peu entre le principal responsable de la Bretagne, donc Nominoé, et le roi carolingien.
Oui. Donc les Carolingiens, eux, vont s'installer, vont avoir des représentants sur Nantes même. Hein.
Oui, ils vont avoir des représentants, ils vont créer quelqu'un qu'on peut considérer comme un marquis, si on veut, parce que la marche, ça donne souvent le marquis, hein, ça va ensemble. Le comte de Nantes, en fait, est sans doute le comte le plus important des trois villes, quoi, hein, puisque Vannes, Rennes et Nantes sont un peu associés pour justement contenir les Bretons dans la partie la plus à l'ouest de l'Armorique. Et finalement, on va avoir des noms très importants, puisque le fameux Roland de Roncevaux aura été comte de Nantes, il va mourir à la fin du 8e siècle, hein, on sait, à Roncevaux. Et puis il y en aura d'autres, hein, il y aura notamment les Lambert qui vont jouer un rôle assez important. En général, ce sont des proches quand même, des gens qui ont la confiance du roi.
Qu'est-ce qui va amener justement à l'implantation, on va dire, bretonne sur Nantes, hein? On brûle les étapes certainement, mais...
Oui, on brûle les étapes, mais c'est normal puisqu'on veut arriver au Xe siècle dans cette première émission. Bah, je pense d'abord que la ville existe, elle a une réalité économique, et donc ce n'était pas tout à fait par hasard, hein, puisque on trafique un peu le produit, enfin on transporte le produit des mines. Il y a des mines assez nombreuses, hein, dans la région, notamment au nord de Nantes. Et puis, ben, il y a le commerce du sel, le commerce du vin également. Il y a certainement déjà des marchands qui sont organisés dans la région. Il y a un certain nombre de richesses. L'Église a également installé les marques de sa puissance et de sa richesse, avec un évêque à Nantes et puis une cathédrale. Donc tout ça, c'est assez attractif. Et puis enfin, il faut bien voir que les voies de communication... passait par Nantes. En fait, on ne traversait pas la Loire dans l'estuaire, il n'y avait pas le pont de Saint-Nazaire, il n'y avait pas de bac à Madin ou à Bassindre, il n'y avait rien de tout cela, donc on était obligé de passer par Nantes, et c'est une voie de communication, un angle extrêmement important, hein, puisque de Nantes, on peut venir du Poitou, on peut venir de l'Aquitaine, monter ensuite vers Rennes, vers Quimper. Et puis également, il y a des voies qui longent la Loire, mais par le nord, hein, des voies terrestres. Certaines d'ailleurs s'écartent de la Loire et qui vont en fait en direction de Lutèce, on dirait la route de Paris aujourd'hui, quoi.
Très bien.